Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de quelqu'un que peut-être vous pensiez déjà connaître. Marinette Pichot, meilleure buteuse de l'équipe de France de football féminin. 112 sélections, 81 buts. Ça fait 10 ans qu'elle a rangé les crampons et le maillot bleu, et c'est toujours elle qui détient le record. Bonjour Marinette Pichon.
Bonjour Christophe.
Je me suis régalé, Marinette, à écrire votre histoire en m'appuyant sur le livre que vous avez publié chez First, Ne jamais rien lâcher. Il y a trois histoires, au fond, dans votre histoire. Il y a d'abord une histoire de footballeuse, une histoire de femme tout court qui assume très jeune son homosexualité et qui aujourd'hui a bâti une famille, et puis l'histoire d'une résiliente dont l'enfance et l'adolescence ont été pourries par un père destructeur et qui a trouvé la force de dépasser cet atavisme. Bref, au total, ça fait une belle histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Ah, celui-là, avec le père qu'il a eu, comment voulez-vous qu'il s'en sorte ? Oh, celle-là, quand on a vécu ce qu'elle a vécu, que voulez-vous ? Il n'y a rien à faire. Combien de fois avons-nous entendu et prononcé ce genre de phrase idiote ? Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société. L'idée qu'on aurait dans le dos une sorte de sac à dos où s'entasseraient toutes les emmerdes de notre vie. Tous les traumas, toutes les souffrances. Plus c'est lourd, moins on a de chances d'avancer. Plus c'est lourd, plus notre vie est plombée. C'est faux ! Un sac à dos, ça se pose. C'est ce qu'elle a fait, Marinette, dont je vais vous raconter l'histoire. Il était lourd, son sac à dos. Eh bien, elle l'a posé, et elle a tracé tout droit. Alors, tout droit, ça commence où ? Eh bien, ça commence quand Marinette Pichon a 5 ans. En 1980, donc en Champagne, à Brienne-le-Château, 3000 habitants, à 40 km de Troyes. Et ça commence un mercredi, un jour donc où il n'y a pas école. Marinette est une pile électrique, elle ne tient pas en place, et donc la mère et la fille se promènent pour décharger la pile électrique. Et à un moment, elle passe devant le stade briennois. C'est un terrain de football, mais de là où elles sont, elles ne le voient pas. Elles entendent juste des gamins qui crient et qui s'encouragent. Marinette roule des yeux ronds et elle se met à tirer sa mère par la main. On va voir, viens, viens, on va voir. La mère et la fille franchissent les portes du stade. Elle a 5 ans, hein. Et là, il y a des dizaines de gamins qui rient, qui jouent, qui tapent dans un ballon de foot, que des garçons. Et dans la seconde où Marinette les voit, elle n'a qu'une idée. Les rejoindre, aller jouer avec eux. Et là, l'entraîneur la voit. Tu veux venir jouer ? Bah, je peux pas. Et pourquoi tu peux pas ? Bah, je suis une fille. L'entraîneur éclate de rire. Allez, tiens, prends une chasuble et viens avec nous. Marinette enfile sa chasuble et elle entre sur le terrain. La tête des autres. Il la regarde comme une bête curieuse. Oui, c'est une petite fille qui va jouer au football avec vous. Et alors ? Elle a envie d'essayer. Donc je compte sur vous pour l'accueillir comme il faut. D'accord ? Vous n'êtes pas là pour gagner. Vous êtes là pour vous amuser. Et voilà donc notre Marinette, seule fille au milieu de 40 garçons. Et la mère sur le banc de touche qui regarde, pas rassurée. Faudrait pas qu'elle prenne un coup de crampon. Et là se produit quelque chose d'assez magique. C'est comme une évidence. Le ballon lui colle au pied, comme si elle avait toujours joué au football. Et avec tous ces petits gars, elle est dans son élément. Elle s'amuse, elle est heureuse. Et une semaine après, elle prend sa licence, sa première licence, et elle intègre le club. 5 ans. Et à partir de ce moment-là, elle ne pense qu'à ça. Tout le temps, le foot, C'est sa bouffée d'air, ça lui lave la tête. Au fond, c'est le seul moment où elle ne pense pas à celui qui lui pourrit la vie. Elle a 5 ans, elle ne formule pas les choses comme ça, mais son père, objectivement, lui pourrit la vie. Ah, son père. En public, les gens vous diront qu'il est charmant, un père de famille idéal. Employé modèle, ponctuel, fiable, toujours souriant. Mais à la maison, il picole. Et quand il a picolé, ça devient une teigne. Il leur colle des roustes à tout bout de champ. Il cogne sa femme et ses deux filles. Tiens, un exemple. Un jour, il est pété comme un coin. Il attrape un couteau de cuisine, il le leur colle sous le nez. La mère et les filles se mettent à courir dans l'escalier, il les poursuit, couteau à la main, une gamine de 5 ans. Et si à côté de ça, quand il a débourré, il était gentil. Mais même pas. Jamais une gentillesse. Et un « je t'aime » ou un « je vous aime », vous pouvez toujours courir. Hein. Des reproches, ça, oui. Des insultes, des humiliations, des vexations, il n'est jamais à court. Un jour, pour la fête des pères, la maman et les deux filles lui offrent un vélo. Un beau vélo, lui qui est un passionné de cyclisme. Vous croyez qu'il dirait merci? Qu'il ferait au moins un sourire? Rien. Aucune réaction. Heureusement que Marinette a sa maman pour tenir la baraque et pour l'aimer. Ah, sa maman. Courageuse, sa maman. Petite, costaud, elle était à domicile. Elle part travailler tous les matins à 7h. Elle rentre le soir à 22h. Dans son livre, Marinette écrit « Heureusement, ma mère a toujours été présente. Elle a été une bouée de sauvetage. J'ai toujours senti de l'amour et de la fierté dans son regard. Il y avait énormément de complicité entre nous. » Et donc, vous comprenez pourquoi Marinette, toute petite, se jette à corps perdu dans le football. Et ça dure comme ça jusqu'à son adolescence.
14h-15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Je vous raconte aujourd'hui un petit bout de la vie de Marinette Pichon, pionnière, héroïne du football féminin dans notre pays. 112 sélections en équipe de France, 81 buts. Et connue aussi aux États-Unis où elle a accompli une partie de sa carrière. Elle sera là tout à l'heure, bien sûr. Et je m'inspire pour vous raconter son histoire du livre qu'elle vient de publier chez First, « Ne jamais rien lâcher ». Je viens de vous raconter son enfance, son père alcoolique et violent, et aussi son contact magique, à l'âge de 5 ans, avec le ballon rond. Et la voici arrivée à l'adolescence. Marinette est en troisième. Elle a 15 ans. Et jusqu'ici, elle bénéficie d'une dérogation de la Fédération de football. Pour jouer, elle, la fille, dans une équipe de garçons. Où, entre nous, elle n'est pas toujours la bienvenue. Hein. Une gonzesse, pensez-vous. Mais bon, elle est là, et elle sait s'imposer. Elle est toujours dans l'équipe de Brienne, où elle a débuté quand elle avait 5 ans. Et elle participe à son premier gros tournoi, contre une grosse équipe, l'Olympique de Marseille, figurez-vous. Et bien entendu, c'est la seule fille sur le terrain. Ce jour-là, elle a les nerfs à vif. Sa maman a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Elle est dans le coma. Elle va s'en sortir, je vous rassure, mais là, pour le moment, elle est entre la vie et la mort. Juste avant le coup d'envoi, un joueur de l'OM, gonflé à la testostérone de Marseille, lui dit avec un petit sourire narquois.
« Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Tu joues au foot? T'as rien à faire sur le terrain ?»
Elle ressent cette phrase comme du mépris. Ça la blesse. Elle essaye de ne pas le montrer, mais elle se sent humiliée. Un de ses coéquipiers lui remet les idées en place.
« Laisse courir, va. C'est un con. Concentre-toi sur ton match. »
Sauf que pendant le match, ce sentiment d'humiliation va se transformer en rage. Et à un moment, le ballon arrive dans la surface de réparation, Marinette réceptionne, elle décroche une énorme frappe et elle marque. Et l'équipe de Brienne l'emporte sur l'Olympique de Marseille 1-0. Et à la fin du match, le minot qui l'avait humilié, vient s'excuser.
Oui, madame. Je suis vraiment désolé. J'étais con. J'aurais pas dû te manquer de respect. Chapeau, hein. T'es une très bonne joueuse.
À part ça, Marinette est dans sa passe crise d'ado. Toujours en jogging, en mode racaille. Sa mère la soutient, elle l'encourage même. Mais n'empêche que quand elle la voit partir à l'entraînement avec son jogging et son ballon sous le bras, il lui arrive de lâcher.
Je ne sais vraiment pas ce que j'ai raté avec toi, hein.
Un jour, Marinette rentre chez elle et d'entrée, elle voit sur le visage de sa mère qu'il y a un problème.
Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal?
Et là, la mère ouvre un tiroir et elle en sort une lettre. Et elle balance la lettre sur la table. Et cette lettre de 4 pages est une déclaration d'amour, adressée à Marinette et signée par une fille. Eh oui, Marinette aime les filles. Sa mère est totalement désemparée.
Dis-moi ce que j'ai loupé. J'ai raté quelque chose?
T'as rien raté, maman.
Et puis cette fille, je la reverrai jamais. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé de tout ça? Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Ah ben d'accord. Donc je ne vais plus me cacher. Mais rassure-toi, je ne vais pas tout de suite ramener des filles à la maison.
Et la mère de dire, avec un sourire complice,
t'aurais pu en trouver une plus jolie.
Sacrée maman, non? Et le père, alors?
Le père, il n'a pas changé. Il est même pire qu'avant.
Un jour, Marinette vient de gagner un match avec son équipe. Il vient la chercher en voiture. Et sur la route, il lui dit...
C'est pas parce que t'as gagné que ça fait de toi une meilleure gonzesse, hein? De toute façon, t'arriveras jamais à rien dans la vie. Tu vois les arbres là-bas, le long de la route? Tu veux choisir lequel pour que j'aille te mettre dedans?
Un soir, Marinette est dans sa chambre. Elle entend sa mère qui monte les marches 4 à 4 et la voix titubante de son père qui hurle en lui courant derrière.
Je vais te saigner les veines! Je vais te saigner les veines!
Et la saison, elle sort de sa chambre, son père est là devant elle avec encore une fois un couteau à la main.
Si tu ne poses pas ça tout de suite, c'est moi qui te saigne! T'as compris?
Marinette a donc 16 ans. Et là, plus question de dérogation pour jouer avec les garçons. Elle est trop vieille. Et elle se dit qu'elle va devoir raccrocher les crampons, que le foot, c'est fini. Mais l'un des dirigeants de son club prend les choses en main. Il appelle la présidente de l'Olympique Saint-Mémy, dans la Marne, un club de filles, à 80 kilomètres.
Dis, on a une gamine chez nous, là. Elle a un truc, hein. Tu devrais la prendre à l'essai.
Et voilà comment Marinette devient la petite star de cette équipe féminine de Saint-Mémy. Et à 19 ans, elle décroche sa première sélection en équipe de France. Et son père, bien entendu, n'a pas un mot aimable pour la féliciter.
14h-15h, on de l'être raconte sur Europe 1.
De la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui, en m'inspirant du livre qu'elle vient de publier, Ne jamais rien lâcher, chez First, l'histoire de Marinette Pichon, héroïne du football féminin en France. Plus grande buteuse de l'équipe de France. Elle sera là tout à l'heure, et pour l'instant, je vous ai raconté son enfance, sa découverte du football à 5 ans, ses premières années dans une équipe de garçons jusqu'à ses 16 ans, son homosexualité aussi, qu'elle assume dès l'adolescence, et l'enfer que lui fait vivre son père, alcoolique et violent. Pour vous dire à quel point le père est un boulet, un soir de l'année 2000, elle a 25 ans, elle rentre de l'entraînement, elle ouvre la porte et elle tombe nez à nez avec lui. Il est en train d'abuser sexuellement de sa grand-mère maternelle qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Monstrueux. Marinette s'interpose et c'est sa sœur qui décide d'appeler la police. Le père est arrêté chez lui et il repart de la maison avec les menottes. Et après ça, elles ne le reverront presque plus. Et l'année d'après, il faut bien le juger. Et ça tombe à un drôle de moment pour Marinette, puisqu'elle est en train d'exploser, elle s'apprête à partir pour les États-Unis. Elle a signé avec le club de Philadelphia Charge. L'entraîneur l'a repérée pendant l'Euro, elle va jouer dans le championnat américain. Mais en attendant, il faut donc juger son père pour le viol de sa belle-mère. Et bien entendu, elle doit témoigner au procès. Dans son livre, elle écrit « Témoigner a été une épreuve. Il a fallu tout déballer, vider son sac, se délester du poids de ces tristes années. Ça a été très difficile, encore plus pour ma mère, après 33 années de mariage. Mais il était hors de question de culpabiliser pour un homme qui avait anéanti mon enfance et toute ma jeunesse. » Et donc, elle témoigne et le père est condamné à 10 années de réclusion criminelle. Et à la fin du procès, il regarde Marinette et il lui dit
« J'espère que tu mettras des sous de côté aux États-Unis. »
Ça a été l'un des moments les plus éprouvants de ma vie. Mais je ne remercierai jamais assez ma sœur d'avoir pris cette décision d'appeler la police. Il fallait qu'il sorte de notre vie, à tout prix. Et donc en janvier 2002, voilà notre Marinette qui découvre l'Amérique, Philadelphie. C'est un autre monde, hein. C'est une autre vie. Rendez-vous compte, en France, elle travaillait au service des sports de Saint-Mémy. Elle gagnait 800 euros par mois, avec une prime de match de temps en temps, 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Là, elle gagne 6000 euros par mois. Au début, elle a du mal à gérer ce changement de vie un peu brutal, et ça se ressent même sur le terrain. J'étais rincé, fatigué, je n'encaissais pas les charges de travail. Le malaise était d'autant plus perceptible que j'étais incapable de trouver le chemin du but. En panne, méconnaissable, j'étais au fond du trou. La peur de décevoir, l'impression de ne pas être totalement à sa place. Alors les premiers soirs, quand elle rentre chez elle à Philadelphie, elle chiale. Elle chiale, elle a le cafard. Et tous les soirs, elle appelle sa maman qui ne sait pas quoi faire pour la réconforter.
Écoute Marinette, de toute façon tu peux pas partir. Hein? T'as signé pour un an. Faut que t'essayes de t'intégrer. Faut que t'apprennes à échanger avec les filles pour que tu te sentes mieux. Faut que tu te libères. Sinon ça le fera jamais.
Elle raccroche. Elle chiale un dernier bon coup, elle se couche et le lendemain matin, quand elle se lève, elle a un déclic et elle se dit « Maintenant, l'Amérique t'appartient, tu vas tout casser !» Et au fil des entraînements, elle se libère, elle lâche prise et elle s'impose. Elle impose son style sur le terrain, toujours aussi pro. Deux entraînements par jour, elle se forge un mental d'acier. Elle a perdu 8 kilos. Maintenant, elle est tout en muscles. Et à la fin de la première saison, elle est élue meilleure attaquante et meilleure joueuse de la Women's United Soccer Association, la Ligue américaine de football féminin. Et maintenant, elle a son club de supporters, The Pigeons 11, en référence à son numéro de joueuse, le 11. Elle a même des figurines à son effigie. Et quand elle marque un but, elle fait une sorte de danse sur le terrain, la Monkey Dance. C'est une renaissance. Son père, la France, son adolescence, tout ça, c'est derrière elle. Je me revois marquer, je me revois danser, je me revois communier avec les supporters. Je suis heureuse d'avoir découvert une autre culture, de m'être enrichie humainement. J'avais appréhendé un autre monde, appris un autre mode de vie, je m'étais imprégné d'une autre mentalité, j'avais fait des choses que je n'aurais jamais imaginées. Quant à son homosexualité, elle la vit pleinement. et publiquement. Aux États-Unis, il y a encore moins de tabous. Deux hommes et deux femmes peuvent parfaitement se tenir la main tranquillement dans les rues de Philadelphie. Et d'ailleurs, elle a une histoire avec une supportrice. Je vous le dis, ça n'est pas la meilleure idée qu'elle ait eue. Elle est tombée sur le mauvais numéro, une femme vulgaire, violente, alcoolique. Ça ne sera pas l'amour de sa vie. Et au bout d'un an et demi, figurez-vous que la Ligue américaine, la Women's United Soccer Association, fait faillite. Bye bye le championnat américain. Elle négocie un contrat amateur avec une équipe de seconde ligue, les Wildcats du New Jersey. C'est moins chic, mais elle a des projets. Elle veut créer une école de football. Elle a les encouragements de George W. Bush. Mais son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à renouveler sa carte verte, son permis de travail aux États-Unis. Et donc en août 2004, elle doit rentrer en France. Elle écrit « Je le regrette encore aujourd'hui. Je me sentais tellement bien. Il y a là-bas une ouverture d'esprit que l'on ne retrouve pas chez nous. Les gens ne jugent pas en permanence, ne sont pas jaloux de la réussite. Je suis revenu en France métamorphosé. J'étais une autre femme, sûre d'elle, décomplexée, prête à tout assumer. Et en France, Marinette signe dans un nouveau club, le FCF Juvisy-Essonne. Et à côté de ça, elle est salariée du Conseil Général de l'Essonne. Et en septembre 2004, au cours d'une soirée à Évry, elle flash sur l'une des filles de l'équipe de France de basket en fauteuil, une handicapée.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une héroïne du football féminin en France, Marinette Pichon, que je vais accueillir dans un instant et qui vient de publier chez First son autobiographie « Ne jamais rien lâcher ». Je vous ai raconté son enfance et son adolescence marquées par la figure destructrice de son père, alcoolique et violent, et finalement condamné pour le viol de sa belle-mère à 10 ans de prison. Et nous en étions au moment où Marinette, après deux années passées aux États-Unis à Philadelphie, rentre en France et signe au club de Juvisy, dans l'Essonne. Et là, elle rencontre l'amour de sa vie. Une joueuse, donc, de l'équipe de France de basket en fauteuil, Ingrid, qui est paraplégique, c'est-à-dire paralysée des membres inférieurs, et médaillée de bronze au championnat d'Europe. Elle la croise dans une soirée à Évry, et c'est le coup de foudre.
Bonjour. Oh, encore bravo pour cette médaille de bronze.
Le courant passe bien, et à la fin de la soirée, elles s'échangent leur numéro de téléphone. Et pendant plusieurs semaines, elle s'appelle pour prendre des nouvelles, gentiment. Et un jour, Marinette se lance.
« Tu sais, Ingrid, je pense beaucoup à toi. J'ai très envie de te revoir. »«
Enfin ? Comment ça ?»«
Ben, je sais pas si tu sais. Hein. Je suis lesbienne. »
Et là, gros blanc.
« Écoute, Marinette, il est tard, si ça te dérange pas, je vais aller dormir. » On se rappelle bientôt, hein.
C'est ce qui s'appelle se prendre un râteau. Bon, elle aura essayé. Et pendant un an, plus de nouvelles. Mais elle se recroise un an plus tard, par hasard, lors d'un rassemblement sportif dans l'Essonne. Elle discute comme si de rien n'était. Et le soir, Ingrid rappelle Marinette. Et voilà! C'est le début d'une longue histoire d'amour qui commence pile au moment où en 2007, Marinette, qui a maintenant 32 ans, décide de mettre un terme à sa carrière. Avec maintenant un autre projet. Elle veut avoir un enfant avec Ingrid, par PMA. Et donc, puisqu'en France ça n'est pas possible, elles vont en Belgique. Elle rencontre un psychologue, il veut s'assurer que Marinette et Ingrid assument pleinement leur homosexualité. Qu'elle ne se cache pas. Il dit que c'est important pour l'enfant.
Si votre enfant vous demande pourquoi il n'a pas de papa,
Comment est-ce que vous réagissez ? Bon, on lui expliquera simplement la situation. Notre histoire d'amour. D'accord. Et à l'école, comment allez-vous faire vis-à-vis des autres parents ? Bon, on sera très clair aussi. On dira les choses. Et après, ça ne se passe pas aussi vite qu'elle l'aurait voulu. Le corps a ses raisons que la raison ignore. Il leur faut attendre 5 ans avant qu'Ingrid ne tombe enceinte d'un petit garçon. Elle accouche par césarienne le 7 novembre 2012. Marinette est dans la salle d'attente, elle tourne en rond, complètement angoissée. J'étais tellement inquiète, j'avais peur pour mon fils, j'avais peur pour ma femme, j'étais submergée par l'angoisse de perdre l'un ou l'autre, je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Et puis arrive la sage-femme, avec un nourrisson dans les bras.
Madame Pichon, voilà notre petite merveille.
Et quelques heures plus tard, elle rejoint Ingrid dans sa chambre avec leur fils, Gaël. Nous étions enfin ensemble. J'avais ma femme, mon fils, nous étions une famille. C'est le plus beau jour de ma vie. Et Marinette et Ingrid se marient 10 mois plus tard, le 7 septembre 2013. Et à l'automne 2017, Marinette reçoit un coup de fil. Son père. Son père est entre la vie et la mort. Il a un cancer. Alors elle va le voir, mais il est incapable de parler. Malgré tout ce qu'il avait pu se passer, j'étais affecté de le voir dans cet état. Je pensais qu'il nous montrerait un minimum d'affection, une preuve d'amour. Il en a été incapable. Et puis elle lui dit
« Regarde, papa, tu nous as pas épargnés. Mais je suis là. Je me suis battu. J'ai une famille. Sache que je ne serai pas présente à ton enterrement. »
Son père décède quelques mois plus tard, en janvier 2018.
14h-15h, On de la raconte sur Europe 1. Europe 1, On de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'une héroïne du football en France, Marinette Pichon, 112 sélections sous le maillot bleu, 81 buts marqués et une vie qui n'était pas gagnée d'avance. Un père brutal, mal aimant, un sport qui, quand vous avez commencé à le pratiquer, n'était quasiment pas ouvert aux filles, et une homosexualité que vous avez choisi d'assumer, Marinette Pichon, dès votre adolescence. Et aujourd'hui, vous êtes mariée et vous avez donc un petit garçon. Reprenons les choses au début. Vous en avez deux même maintenant.
Voilà. Il en est un premier que Ingrid avait eu, qui s'appelle Maxime, qui a 25 ans, et Gaël, qui a 5 ans, qui va avoir 6 ans.
D'accord. Alors, il y a un passage fascinant, c'est que donc, quand vous avez 5 ans, vous êtes à Brienne-le-Château, l'endroit où vous êtes né, et vous allez jouer votre premier match de football au milieu de ces garçons, et vous dites que c'est apparu comme une évidence, c'est-à-dire que vous savez jouer au football sans jamais y avoir joué. Ça reste quand même un truc assez mystérieux.
Bah oui, carrément, parce que du moment où j'arrive sur le terrain, je suis moi, quoi. J'ai le ballon qui colle au pied, je dribble, je sais pas comment je fais ça et j'y arrive, quoi. Et les garçons me regardent d'un œil en me disant, attends, elle arrive d'où? Elle arrive, elle prend le ballon, elle dribble tout le monde, et puis voilà. Et ça a commencé comme ça, c'est absolument improbable et fou, quoi.
Et il y a un truc auquel on peut pas s'empêcher de penser quand on connaît la suite. On se dit, bah, c'était un garçon manqué, donc, c'était un garçon.
Ouais, c'est sûr qu'à 5 ans, je chopais la gestuelle des garçons. J'ai traîné avec eux pendant des années, donc forcément, par mimétisme, on s'habille, on parle, on bouge comme eux et on devient un garçon manqué. Quoi.
Mais vous n'êtes pas un garçon manqué quand je vous vois là.
Non, bien sûr. Non, mais à l'époque, je l'étais. Enfin, ouais. Je parlais, j'avais des attitudes assez étranges par moments. Aujourd'hui, je suis une femme accomplie, heureuse dans ma vie et j'aime être une femme, surtout.
Oui. Mais non, parce que ça, c'est un truc, on peut passer rapide là-dessus, mais il y a des gens qui se disent, une lesbienne, c'est un garçon manqué, c'est un mec qui s'assume pas.
Oui, les clichés sont assez lourds parfois, où une lesbienne court après toutes les nanas aussi. Oui. Elle veut absolument sortir avec tout le monde et coucher avec tout le monde. Ben non, oui. C'est pas le cas. Mmh. On peut aussi aimer une femme et être fidèle.
Mais donc, il n'y a pas de rapport entre votre élan pour le football à 5 ans et votre homosexualité, en vérité?
Pas du tout.
Aucun. Même si, comme ça, voilà. ça peut traverser l'esprit. À 16 ans, donc quand il est question de ne plus pouvoir jouer avec les garçons, vous pensez vraiment arrêter?
Oui, je raccroche les chaussures. Pour moi, j'ai pas de, c'est une pseudo carrière. J'ai joué avec des copains, on s'amusait, on prenait du plaisir à être ensemble, mais je pouvais pas qualifier ma pratique de carrière et pouvoir avoir une vision autre à long terme avec de l'ambition. Donc je raccroche les crampons et je dis à ma mère, bah je vais faire un autre sport ou je vais arrêter de faire du sport, quoi, tout
et
simplement.
Et là, il y a de la chance parce que on dit toujours la volonté, mais il faut un peu de chance de temps en temps. Il y a ce dirigeant qui s'occupe de vous, c'est-à-dire qui dit « Mais non, Marinette, tu vas pas arrêter, je vais te trouver un club pour les filles. »
Mais c'est marrant parce que Jean-Claude Richel, qui est ce dirigeant, me le dit pas.
Et passe il le fait dans votre dos.
Il passe le coup de fil dans le dos, il prend la tâche de Régine Pierre et ça se fait, ça se monte comme ça, et ma mère va être informée, et on va voir comment on peut caler le tout. Et sur ce chemin de vie qui est particulier, je rencontre des gens fabuleux, des gens géniaux, dont fait partie Jean-Claude. Maintenant, malheureusement, il est décédé. Mais c'est lui qui a impulsé quelque part ma carrière.
Il ne fait pas ça. Peut-être que vous ne jouez pas du tout au football après 16 ans.
Probablement.
Hein, c'est possible.
C'est fort possible.
Alors évidemment, il faut parler de votre papa. On est assez touché par la dernière scène. Puisque vous allez le voir néanmoins, alors que vous ne l'avez pas revu depuis des années, et que vous ne souhaitiez pas le revoir, est-ce que ça veut dire que vous lui avez pardonné?
Non. Je vais le voir parce que je veux quelque part... J'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir des réponses. Plus on vieillit, plus on a envie d'apporter des solutions à tout ce qui s'est passé dans notre vie, de les comprendre ou non, mais en tout cas de savoir. Et je vais aller le voir, je vais prendre la décision sans en parler à ma mère, j'appellerai sur le chemin de l'hôpital ma sœur en lui disant, voilà, je ne sais pas si tu es au courant, j'ai reçu un coup de fil, voilà ma position, je vais aller voir, est-ce que tu veux m'accompagner ou pas m'accompagner? Et elle m'accompagnera. Mmh. Et je me rappelle, hein, chez elle, je lui dis, et je te préviens, on ne déterre pas l'âge de guerre. Voilà, on n'y va pas pour régler nos comptes. Moi, je pars dans cet état d'esprit.
Oui.
Et au final, j'arriverai quelques heures et je me rendrai compte que son regard ne change pas, même s'il a une aphasie côté droit, donc il ne peut plus s'exprimer. Je vais essayer de lui demander s'il veut exprimer quelque chose, parler, ce qu'il a envie de nous dire. On va lui raconter nos vies, ce qu'on a fait, comment on s'est construit malgré tout. Et je vais rentrer dans un échange à sens unique, en lui disant, mais on s'est construite malgré tout, quoi, malgré tout ce que tu nous as fait, quoi.
Probablement qu'il, c'était un homme qui souffrait. On ne boit pas. L'alcool, c'est essentiellement pour calmer les angoisses, en général. Vous lui accordez ça ou pas?
Ben, c'est-à-dire que dans le cocon familial, je vois pas ce qui aurait pu amener cette dépendance à l'alcool. Sa femme travaillait, était là quand il avait besoin, elle était là. Ses deux enfants, ben voilà, essayait de trouver un chemin vers des études de vétérinaire qui lui a refusé, donc elle a arrêté, elle s'est tournée
vers le
cheval et vers un poste d'assistante dentaire, pas forcément ce qu'elle aurait voulu faire. Moi, bon, bah, j'étais peut-être un peu le cas difficile de la maison, mais pas de là à plonger peut-être une figure paternelle dans de l'alcoolisme profond et dégager cette violence au point de ne pas pouvoir nous encadrer, quoi.
Si votre père avait été normal, est-ce que vous auriez trouvé cette force?
Je sais pas, parce que j'aurais probablement été très bien à la maison. J'avais pas besoin d'aller sur les terrains de foot, trouver l'oxygène ou trouver un endroit où je me sentais bien, où je me sentais moi, où j'avais le droit à la parole, où il n'y a pas de censure, il n'y a pas de discrimination, il n'y avait pas de violence verbale. Donc je pense que si j'avais eu cet environnement doux, agréable, aimant, où on partage des moments ou des repas le soir, où on discute de la journée, où on envisage des choses, où on parle d'avenir, peut-être que...
Vous auriez une vie plus pépère.
Ben ouais, j'aurais peut-être eu... Alors, j'aurais peut-être pas fait cette carrière aussi.
Probablement.
Ouais. Mais en tout cas, je serais peut-être pas allé chercher ce que j'avais pas à la maison tout simplement.
Alors quand on cherche toujours le petit moteur, moi je me suis aperçu que souvent les gens font des choses pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour votre maman que vous avez fait cette carrière, d'une certaine manière.
J'ai joué au foot pour moi avant tout,
oui.
Parce que j'aimais ça. Et quand j'ai touché pour la première fois le ballon à l'âge de 5 ans, c'était juste waouh, c'est génial. Et ensuite, plus j'ai grandi.
Je parle de la réussite. De...
Oui. Plus j'ai grandi et plus les portes de l'équipe de France se sont ouvertes, plus je suis devenue professionnelle, plus j'avais envie de lui dire voilà, maman, ben, grâce à toi, c'est ça, quoi. Moi, je suis là et je pense que je ne pourrais jamais la remercier assez. Et elle sait combien je l'aime et combien elle est importante dans ma vie. Et c'est vrai que sans ma mère, ça aurait été une autre histoire, je pense.
La figurine à votre effigie, qui est fabriquée aux États-Unis, parce que voilà, il y a les goodies aux États-Unis autour des joueurs. Je suis certain que vous la lui envoyez tout de suite. D'abord la photo.
La photo, la figurine, le ballon, le maillot, le trophée, tout. Les maillots. Elle a tout à la maison.
C'est pas compliqué.
Elle a même la médaille de l'Ordre National du Mérite. Elle a tout. Je crois qu'elle me l'a rendue d'ailleurs. Je te la rends, tu te rends compte. Mais elle a tout.
On va marquer une nouvelle pause et parler ensuite de cette homosexualité que vous assumez très jeune, ce qui d'une certaine manière fait aujourd'hui de vous une figure de l'homosexualité féminine. Je ne sais pas si vous assumez ça, après la pub.
Europe 1, on de la traconte.
Et c'est la dernière ligne droite dans De la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'une héroïne du football en France, Marinette Pichon. 112 sélections sous le maillot bleu, 81 buts marqués au sein de l'équipe de France. Et qui a écrit chez First, Ne jamais rien lâcher. C'est un livre qui est sorti il y a un mois et qui est toujours disponible aujourd'hui en librairie, bien entendu, en téléchargement. Votre homosexualité, Marinette Pichon, on a l'impression que ça passe tout seul. C'est-à-dire que, voilà, ça n'a pas été un problème.
Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, ça n'en est plus, un. Je suis heureuse parce que quand on m'a posé la question, j'ai dit oui, je suis homosexuelle. Mais avant, j'avais du mal à l'accepter.
À le formuler comme
à
ça.
Le formuler et à l'accepter. Et je pense que la rencontre avec Ingrid y est pour beaucoup. Elle était complètement hétérosexuelle. Je suis arrivée dans sa vie. Bah ouais, mais je crois qu'elle est tombée amoureuse d'une femme, quoi.
Ouais.
Voilà, d'un être. Oui, moi aussi. Mais d'ailleurs, j'espère qu'elle écoute l'émission.
Ouais, sans doute.
Mais en tout cas, ça a été une révélation parce qu'elle a assumé. Elle avait déjà avancé sur l'interrogation et du moment où elle avait décidé de franchir le cap un an après, elle était déclarée homo et amoureuse d'une femme, quoi. Donc ça m'a aidé.
Le fait de l'avoir raconté dans ce livre, de le répéter à longueur d'interview, puisque c'est écrit dans le livre, évidemment, on se sent autorisé à en parler avec vous, du coup, ça vous oblige à être militante?
Obligé, non. Parce que je pense que j'ai plus envie de m'obliger à quoi que ce soit aujourd'hui.
Vous êtes pas le genre, j'ai l'impression.
Mais non, pas vraiment. J'ai un petit caractère quand même, hein. C'est pas évident tous les jours, mais je fais les choses... Parce que je pense que c'est important de véhiculer un message et que certaines mentalités puissent évoluer. Mais je vais pas me lever le matin en me disant « Bon, bah alors il faut dire à tout le monde que t'es homosexuel et ça va aider tout le monde. » Non, c'est juste qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle et il y a des jeunes filles et des jeunes gars qui sont encore jetés dehors de chez eux parce que l'homosexualité n'est pas tolérée au sein du foyer. Et si ce message peut passer et ça peut aider à faire changer les mentalités, ils n'ont rien loupé, ils ne loupent rien. On tombe amoureux d'un sexe, voilà. Après, on vit pas mieux ou moins bien que des couples hétéros. On est heureux dans le choix de vie. Après, je respecte encore une fois les personnes qui décident de garder cette zone d'ombre sur leur choix de vie
et de
leur préférence sexuelle.
Ça, vous le respectez ?
Complètement. Je le respecte complètement, tout simplement parce que ça leur appartient et que si c'est un équilibre dont ils ont besoin, c'est important de le respecter parce que moi, j'ai envie qu'on respecte mon choix de vie. Donc, je veux pas me poser en face face de quelqu'un et dire non, mais dis donc, pourquoi toi tu dis pas les choses? Ben non, toi tu es libre et c'est important que chacun y trouve son compte. Moi j'y trouve mon compte et j'espère que les autres aussi.
Dans votre bouquin, vous racontez deux histoires, une petite aventure que vous avez donc aux États-Unis avec cette fille. Alors c'est bien intéressant parce qu'elle est alcoolique, la première aux États-Unis.
Je ne saurais que très tard.
Oui.
Très tard.
N'empêche qu'elle est alcoolique comme votre père.
Ouais, et elle me renvoie, donc on va se voir à plusieurs reprises, plusieurs semaines, plusieurs mois, et on va décider de se voir un peu plus, partager un peu plus de temps. Et là, je vais découvrir un visage, me renvoyer au visage de mon père, quoi. Une nana qui est violente, verbalement, qui m'a attrapé 2-3 fois par le callback, me coller, me serrer le kiki contre le.
Ouais, qui est violente,
Qui est violente. Et là, je me dis, oh là là, j'ai à un moment donné, c'est bon, quoi, je vais pas m'enfler.
Et là, vous
vie.
Dites, est-ce que je l'ai cherché?
Ouais, ou est-ce que j'attire ce type de personne, quoi? C'est surtout ça, on se dit, mais alors qu'elle était adorable, serviable, avenante, douce, enfin, voilà, et démon, quoi. Et je dis, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, ça, faut que ça s'arrête, quoi.
Et Ingrid, elle est paraplégique. Alors là, je me suis dit, quand même, elle aime les complications, parce que c'est une vie compliquée.
Bah, c'est.
Plus compliqué. Elle est en fauteuil.
Enfin, c'est pas plus compliqué parce que je suis sa femme, je suis sa compagne, donc je suis pas son assistante. Elle est complètement autonome et son handicap, quand je vais la voir la première fois, je le vois, mais je le vois pas quelque part. Je vois la femme qu'elle est. Je la vois elle, rayonnante. Il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc dans mon ventre, dans mon cœur, et je me dis waouh. Et je vois pas son handicap parce qu'elle est autonome, parce qu'elle conduit, parce qu'elle fait sa vie, parce qu'elle élève son fils toute seule, parents isolés. Enfin. Je le vois pas, son handicap. Et pour moi, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est pas du tout compliquée. Parce qu'on part en vacances de la même façon que tout le monde. On va voir des spectacles comme tout le monde. On va manger au restaurant comme tout le monde. Sauf qu'on a intégré dans notre mode de vie que pour se rendre quelque part, il fallait prendre en considération le fait qu'elle est en fauteuil. Donc un petit coup de fil, vous êtes accessible.
Il n'y a pas que ça, parce que c'est une vie compliquée, une vie de paraplégique. Pour aller aux toilettes, c'est compliqué. Pour se laver, c'est compliqué. C'est-à-dire que au point où vous en êtes de renverser des montagnes, ça vous est apparu tout petit, ça. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui se noieraient face à quelqu'un de paraplégique en se disant, mon Dieu, comment je vais faire?
Et moi, ça ne m'a pas posé de problème. Ouais. Ma mère m'avait alerté sur la situation en me disant, attention, hein, tu sais que ce n'est pas évident. Elle avait travaillé au contact de personnes handicapées, elle dit, ce n'est pas évident. Moi, aujourd'hui, il m'arrive encore d'oublier le fauteuil dans le coffre. Elle dit, bon allez, on y va. Oui. Elle me dit, bah ouais, je me lève. Bah, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça. Enfin, voilà, j'avance et son handicap, elle pourrait très bien donner des tonnes de leçons à des gens valides. Elle ne s'interroge jamais, elle ne se prend jamais la tête. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, qui vit sa vie, qui a toujours la banane, qui ne se plaint jamais. Mais pour moi, ça a été une chance, quoi, au final. Une chance de la côtoyer et d'être sa femme, parce qu'elle m'envoie tellement de messages forts que voilà. Quoi.
Merci beaucoup, Marinette Pichon.
Merci, Christophe.
D'avoir accepté de vous livrer un peu, à la fois dans ce livre et donc dans cette interview. Votre livre s'appelle Ne jamais rien lâcher. Il est publié chez First Edition et il est encore en vente, probablement au rayon de tous les supermarchés, chez Leclerc, par exemple, à côté de celui de François Hollande, et pas que.
C'était On de la Traconte et je précise que Marinette Pichon a rejoint l'équipe de consultants de la chaîne L'Équipe en vue de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Demain, lundi et mardi, Christophe Ondelat racontera en deux épisodes la vie exceptionnelle d'un ex-braqueur, la vie de Michel Vaujour, l'un des gangsters les plus célèbres de France dans les années 1970 et 80, auteur du livre « L'amour m'a sauvé du naufrage » aux éditions IXO.
Europe 1, 14h-15h, On de la Traconte.